Alors, quand j'ai réfléchissais à ce que j'allais prêcher ce matin, je ne savais pas trop sur quoi parler. Mais par contre, ce que je me suis dit, tu pourrais partager un peu sur ce que j'ai sur le cœur, sur ce qui a touché ma vie depuis ces quelques années. Pas sur un sujet en particulier, mais faire un résumé un peu de tout ça. Et comment je vois cette révélation? Si je devais y donner un titre, ça serait marcher comme Jésus a marché, marcher dans l'amour, marcher dans l'amour du Père, quelque part, dans notre vie. Parce que c'est ce qui m'a vraiment changé. Et je pense que ça m'a changé beaucoup, que je ne suis pas tout seul. J'espère que vous faites partie de cela. À savoir que d'être aimé, à savoir que nous sommes aimés d'un Père qui est pour nous. Et ça change vraiment et véritablement les choses. Je pense que le point de départ de tout ça, c'est tout simplement une révélation qui touche notre cœur. Parce que chaque relation importante, quelque part, qu'on va devoir créer à l'intérieur de nos vies, c'est une relation qui rentre à l'intérieur de notre cœur. Notre femme ou notre mari, les enfants, des amis proches, ils sont pas juste des mots, des concepts, ils sont à l'intérieur de notre cœur et on les porte dans notre cœur. Et la relation que l'on peut avoir avec Dieu en tant que père est elle aussi une relation de cœur. C'est un sentiment qui est fort. C'est pas quelque chose que l'on peut rationaliser ou comprendre avec notre pensée ou notre intelligence. C'est une connexion avec le cœur. Si vous disiez à votre femme ou votre conjoint, je t'aime avec l'intelligence, je suis pas sûr que ça le rassurerait pour l'avenir de sa vie. Bien sûr, c'est bon d'avoir de la connaissance de Dieu, de qui est Dieu, de façon à ne pas se laisser fourvoyer par des pensées qui peuvent être tout à fait personnelles ou des idées qui viennent de l'extérieur, de ne pas être comme les Galates qui se sont laissés entraîner par des fausses idées, des fausses doctrines. Donc il est important d'avoir de la connaissance, de comprendre sa parole, de voir ce qu'il dit. Oui, c'est vrai, mais c'est une très bonne chose. On ne doit jamais abandonner ça et c'est très important de continuer à travailler et à œuvrer dans la parole pour en découvrir tous les secrets. Mais ce qui est important, c'est la relation que l'on crée avec Dieu. C'est ça qui est important. La connaissance, elle enfle. Mais c'est la connaissance de ce qu'il fait. Mais ce qui est important, c'est l'expérience de qui il est. Pas seulement savoir qui il est. Hein. Je peux vous décrire meilleur ami que vous avez jamais connu. Je peux vous le décrire, en faire toute une déclinaison extrêmement précise et exhaustive, pour autant vous ne le connaîtrez pas, sauf le jour où vous allez le rencontrer, le jour où vous allez en faire l'expérience. Et là, il va se passer quelque chose, ça va rentrer à l'intérieur de votre cœur. Au départ, c'était de l'intelligence, de la connaissance, mais au moment où je vais vous le présenter et qu'il sera présent, que vous allez enfin communier avec lui, là, vous allez en faire l'expérience. Nous avons la chance d'avoir Franck Naya et Das qui viennent pour un séminaire. Ben, vous en avez probablement entendu parler au travers de moi, peut-être au travers des différents sites web, mais le jour où ils seront là physiquement et que j'espère vous serez présents, eh ben, la réalité sera tout autre. Vous en aurez fait l'expérience. Donc la relation avec Dieu, c'est vraiment faire une expérience. C'est une relation qui est dans notre cœur. Et qui est dans notre cœur maintenant, maintenant et à jamais, maintenant. En français, vous savez, on a pas beaucoup de mots. Il y a des langues, je pense, qui sont meilleures que nous pour ça. On n'a pas beaucoup de mots pour désigner l'amour. Hein. On peut dire j'aime la pizza comme j'aime ma femme. Hein. C'est la même phrase, mais j'espère qu'on n'aime pas la pizza comme sa femme. Enfin, qu'on l'aime d'une manière bien différente. En tous les cas, j'espère. Pour les couples qui sont là. Et c'est seulement finalement le contexte des mots qui va nous briefer sur le type de relation que l'on doit comprendre derrière ce mot j'aime. Parce que le terme amour, il a différentes significations et qui est dépendante finalement du contexte dans lequel on est. Et quand on parle de l'amour du père, on parle de l'expression parfaite de l'amour. On n'est pas en train de parler de l'amour de la pizza, parce qu'on est en train de parler de cet amour qui est parfait, un amour de cœur, un amour qui vient du cœur. Dieu est amour. Hein, Jean 3,1 nous dit, mais vous voyez de quel amour, vous voyez quel amour le Père nous a prodigué pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes, et nous le sommes, il affirme, nous le sommes. Il y a pas de suspicion à ça. Mais vous voyez quel amour il nous a prodigué. C'est un amour qui est paternel, c'est un amour qui est profond, qui est fort. Et ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on peut avoir pour une pizza. On parle ici d'un amour profondément intime, un amour qui touche le cœur, qui nous parle d'une relation. Hein, nous ne l'aimons que parce qu'il nous a aimés le premier. Il y a une relation qui s'est créée. Et cela commence et s'épanouit à l'intérieur du cœur. Et ça ne fait que grandir au fur et à mesure qu'on lui laisse de la place. Et c'est une relation qui est dans le cœur. Et je voudrais lire ces quelques versets de bien connus de Éphésiens, chapitre 1, versets 15 à 18. Paul écrit, c'est Paul. Alors, j'ai choisi une version qui change parce que ce sont des versets qu'on connaît, mais j'ai pris la version New Living Translation. Depuis que j'ai entendu parler pour la première fois de votre foi inébranlable dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour le peuple de Dieu partout dans le monde, donc il est en train de s'adresser aux Éphésiens, je n'ai cessé de remercier Dieu pour vous. Beau! C'est beau! Je prie constamment, constamment, il n'y a pas d'arrêt, hein, sans cesse, c'est ça que ça veut dire, pour vous, demandant à Dieu, le Père glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je veux m'arrêter un instant après ce début de phrase. Paul prie, il est très clair, Dieu, le Père glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Il tient à le souligner. Il tient à y mettre quelque chose de profond, hein, pour nous lecteurs, par la suite. Il veut mettre en évidence ce qui est vraiment ce Dieu qu'il prie. Il ne confond pas. Il n'y a pas de possibilité de confondre. Je prie constamment, sans cesse, pour vous, d'accord? Demandant à Dieu, le Père glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit à qui il s'adresse à ce Père glorieux et il dit, je ne cesse de demander à ce Père glorieux de vous donner un esprit de sagesse et de révélation afin que vous puissiez mieux le connaître. Donc la prière de Paul est extrêmement simple. Elle est tellement simple mais tellement puissante. Il prie le Père glorieux et lui demande de nous donner quelque chose qui nous permettra de mieux connaître ce Père glorieux. Et ce don qu'il veut nous faire, ce don que nous devons attendre, ce don que nous devons recevoir, c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Il veut que nous ayons en nous son esprit de révélation, cette révélation qui nous montre qui il est vraiment, qui nous en fait faire l'expérience. Il est vraiment ce Père glorieux. C'est pas juste une personne glorieuse. Hein, c'est pas César qui a vaincu les armées de je sais pas quelle nation qui revient glorieux. Non, il est un père. Il n'est pas juste un homme, une femme. Il est un père glorieux. C'est comme si Paul le soulignait, le mettait en évidence en disant, mais c'est vers lui que vous devez vous adresser, que vous devez aller. Ce n'est pas seulement un Dieu là-haut, c'est pas seulement une image. C'est celui qui est descendu vers nous en la personne de Jésus, et ce Jésus a révélé le Père, qui il est. Et c'est ce que nous dit Jean 17, Matthieu 11, Jésus révèle le Père, hein, parce que le Père veut se faire connaître, et il est ce Père glorieux. Il a donné à chacun de nous l'esprit de sagesse et de révélation afin que nous puissions mieux le connaître encore, que nous puissions en faire encore plus l'expérience, à le connaître comme ce Père glorieux qu'il est. Et Paul poursuit sa prière et il dit, je prie pour que les yeux de votre cœur soient éclairés. Ça passe au travers de deux choses, l'esprit de sagesse et de révélation qui nous permet de découvrir davantage qui est ce Père glorieux que nous prions, et que les yeux de notre cœur soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint. L'espérance à laquelle il nous a appelés, c'est que nous vivions comme des fils et des filles de ce Père. Son héritage, c'est celui de vivre ainsi, comme des fils et des filles. Hein? Ainsi que la prière de Paul, que nous apprenions à mieux connaître ce Père glorieux, mais aussi que nous apprenions à mieux nous connaître nous-mêmes et à commencer à savoir qui nous sommes vraiment. Et ça, c'est un travail qui est de longue haleine, qui est de toute une vie. Et lorsque nous voyons comme Paul le prie, lorsque nous voyons avec les yeux de notre cœur, eh bien nous voyons qui il est plutôt que simplement ce qu'il fait. Nous voyons qui il est plutôt que ce qu'il fait. Parce que ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire. C'est Élie qui fait tomber le feu sur l'Holocauste. Hein, c'est ce qu'il fait, c'est extraordinaire. On voit ses miracles, on les constate, on voit sa provision chaque jour, on voit son attention, on voit les choses pratiques qu'il réalise pour nous, et elles sont absolument toutes merveilleuses. C'est sûr. Mais lorsque nous voyons avec les yeux de notre cœur, nous voyons la personne qui est derrière les miracles. Et là, c'est autre chose. C'est autre chose. Qui est ce Dieu qui réalise les choses? Satan pourrait nous tromper en faisant lui aussi des signes, une forme de signe et de prodige. Hein, quand certains disent qu'ils enlèvent le feu ou des choses comme ça, ou sans manipulation, ils arrivent à obtenir des résultats, je pense que derrière, on peut dire qu'il y a des esprits qui sont loin d'être l'esprit de Dieu. Mais Satan pourrait nous tromper, mais quand on voit la personne qui est derrière le miracle, ce Dieu merveilleux qui est derrière le miracle, ce Dieu avec qui nous avons une connexion de cœur, là, en plus de ce qu'il fait, on vit quelque chose de fort. On vit vraiment quelque chose intérieur. Et le cœur est vraiment central à cette nouvelle relation que l'on est en train de créer. Hein? Romains 5,5 nous dit, Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion. Cette espérance, cette relation que nous avons, cette foi dans laquelle nous avons envers notre Père, ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Hein, c'est la version Bible du Sommaire qui nous dit comme ça. Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ça ne peut pas tomber, ça ne peut pas tourner à notre confusion. Quand l'amour est là, quand la relation de cœur dans l'amour est là, ça ne peut pas tourner à notre confusion. Dieu déverse son amour dans nos cœurs et c'est là que réside toute relation importante. Hein, ce n'est pas dans notre cerveau ou dans notre tête. Il ne dit pas qu'il déverse dans notre intelligence, dans l'espoir qu'un jour notre cœur soit touché. Ce n'est pas ça qu'il fait. Hein, il déverse son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint. Parce que c'est là que réside l'amour, c'est là que réside le cœur. Hein? Romains 10,10, c'est avec ton cœur que tu crois, c'est avec ton cœur que tu crois, et en confessant de ta bouche ce que tu as dans ton cœur, que tu parviens au salut. C'est exactement ce qu'a fait la personne qui a été baptisée hier. Elle a cru dans son cœur quelque chose, et elle l'a confessé de sa bouche, en public, avant d'être baptisée. C'est quelque chose qui l'a amené au salut. En fait, Paul dit quelque chose de très critique et même très dur, je dirais, à propos de ceux qui vivent selon leur intelligence. On voit ça dans Éphésiens 4, 17, 19. Il est très ferme. Il dit, Voici ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Donc, il ne parle même pas de sa propre bouche, il parle de la part du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Si la relation n'est pas dans leur cœur, séparons-nous de ça, ils ont des pensées vides de sens. Ayant perdu tout sens moral, ils sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. En fait, quand on perd cette relation avec Dieu, quand on perd cette relation avec notre Père, Eh bien, on va chercher sans cesse, toujours, quelque chose de nouveau, de neuf, et on va laisser tout permettre. Et comme le dit ce verset, ils sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie. Il y a une frénésie à essayer toute forme de connaissances, de doctrines, d'expériences, y compris extrêmement malsaines, aussi bien pour l'âme que pour le corps, que pour l'esprit. Parce que ça fait bien, parce qu'on a essayé quelque chose de nouveau, de neuf, et on veut voir ce que ça fait. Mais en fait, ça nous détruit. Ça détruit les gens, les hommes, les femmes. Et quand on parcourt les réseaux sociaux, c'est exactement ce que l'on voit. C'est des gens qui sont livrés à leur intelligence, qui parcourent et à leur inconduite, et dans lequel ils se jettent avec frénésie dans toutes sortes de vices. Démarrage des Jeux Olympiques de France a été la démonstration, démonstration de ce à quoi on peut arriver. Voyez, lorsque nous avons un cœur endurci, nous vivons quelque part sans intelligence, l'intelligence de Dieu. Paul nous dit que c'est complètement futile, ça ne sert à rien. Ne soyez pas comme les païens qui vivent dans la futilité de leurs pensées. C'est ce que nous dit Paul, car leurs yeux sont obscurcis parce que le cœur est obscurci. Et soyons des gens qui vivons selon notre cœur, pas selon notre intelligence. L'intelligence n'est pas inutile, mais elle doit suivre le cœur, elle doit suivre l'esprit. Soyons des gens qui continuent à demander au Père de répandre son amour à l'intérieur de nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Et souvent, ce que je dis à ceux qui cherchent Dieu, ou ceux qui ont des soucis, des problèmes, des difficultés, qui passent par des moments difficiles, je leur dis, mais faites ce que je fais moi, faites ce que je fais moi. Je pose ma main sur mon cœur, là, puis je dis, mais Père, viens, viens, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, viens dans mon cœur. Prends la position dans mon cœur à cet instant même. Et je vais vous dire une chose, plus je suis désespéré pour demander cette prière, plus j'ai l'impression que Dieu a envie de répondre à cette prière. Et c'est une prière à laquelle il aime répondre. Il aime répondre. Il aime toucher votre cœur. Il aime toucher votre personnalité, qui vous êtes. Et je veux vous encourager à ne pas hésiter à la faire, quelle que soit la situation que vous traversez. Hein, parce qu'il nous a toujours aimés et il nous aime en ce moment même. Et il vous aime au moment où vous ferez cette prière aussi. Et Jérémie 31,3 nous dit qu'il nous aime d'un amour qui est éternel. Il n'y a pas de limite à son amour. Il a commencé à nous aimer avant même que le monde ne soit créé. Et il nous aime déjà, il nous aime encore et il nous aimera encore demain. Ce n'est pas un événement ponctuel. Nous, les hommes, on aime et puis on aime moins, et puis on aime plus, et puis on aime re-moins. Et cet amour fluctuant est très déstabilisant. En tous les cas, moi, ça me déstabilise. Mais l'amour de Dieu, lui, est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Il nous aime toujours et maintenant. Ça, c'est rassurant. Et il continue de nous aimer. Et il ne cesse de nous aimer. Et si nous voulons manifester, marcher comme lui-même a marché, ce même amour doit sortir de nous, cette capacité à aimer. Dans Éphésiens 5, il est dit, avant la création du monde, il nous a prédestinés à être ses enfants. Avant la création du monde. La seule relation qu'il souhaite avec nous, c'est que nous vivions avec lui, que nous soyons des fils et des filles du Père. Et c'est une relation qui est en plus choisie et voulue. Mes enfants n'ont pas choisi d'être mes enfants. C'est comme ça. Mais la relation que nous pouvons avoir avec le Père éternel, c'est une relation qui est choisie et voulue. C'est une relation de cœur. Et tout repose quelque part sur notre cœur. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Notre cœur est au centre de la relation. Hein? C'est le Saint-Esprit qui fait le job. L'une des choses que j'ai découvertes à propos du Saint-Esprit, c'est qu'il n'est pas tyrannique. Il n'est pas tyrannique. Il va pas vous imposer. C'est pas un dictateur. Il sait être extrêmement persuasif. Ça, oui, c'est vrai. Mais il n'est pas tyrannique. Ça aussi, c'est vrai. Il va là où on l'invite, là où on invite à prendre la place. Et c'est comme s'il attendait que nous lui répondions, comme s'il attendait qu'on lui laisse la place. Et puis il déverse son amour à l'intérieur de nos cœurs. Et on voit ça plusieurs fois dans le ministère de Jésus. C'est comme si c'était de l'eau vive qui vient à l'intérieur de de notre cœur. Il nous invite à boire cette eau vive à l'intérieur de notre vie. La première fois que on voit ça dans le ministère de Jésus, c'est un chapitre que j'aime énormément, vous le savez, c'est Jean 4. C'est lorsqu'il parle à la Samaritaine au puits, mais on le voit aussi dans Jean 7, lorsqu'il se rend à la fête des tabernacles, cette fête où finalement ils vivent sous des tentes un peu à l'extérieur pour se rappeler de la provision de Dieu à tout instant, comme quoi ils dépendent de Dieu. Hein, la fête de Soukhot qui se déroule en septembre-octobre, elle vient de se terminer. Mais dans les deux cas, il dit, venez à moi et je vous donnerai à boire de l'eau vive. Et c'est comme s'il disait, buvez, buvez, on va reprendre le moment de Jean 4, hein, je vais le relire. Quiconque boit de cette eau en parlant de l'eau du puits aura de nouveau soif. Hein, il y aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant jusque dans la vie éternelle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon estomac est limité quand je bois. Et souvent, on nous dit qu'il faut boire. Et plus on devient âgé, et plus on nous dit qu'il faut boire. Je suis limité dans ma capacité à boire. Je vois ma femme, quand il s'agit de boire, compliqué. Moi encore, j'arrive à boire un peu plus qu'elle, mais c'est compliqué. Et donc, ce verset nous dit, ben voilà, tu vas boire un verre, là, tu vas boire un verre d'eau, mais ça va être comme une source d'eau vive qui va sortir de toi. Hein, il y a un effet multiplicateur que j'avais jamais remarqué encore jusqu'à présent. C'est ce que nous donne Dieu, ce dont Dieu nous remplit à l'intérieur de notre cœur, devient quelque chose qui se multiplie et qui se répand sur les autres. C'est un effet qui est vraiment multiplicateur. On boit un verre, juste un petit verre, et puis ça devient une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle autour de nous, autour de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous côtoient. Et c'est ça que ça produit, marcher dans l'amour. Hein, marcher dans l'amour du Père. Et la caissière va se mettre à pleurer lorsque vous allez passer devant. Les gens vont être étonnés de ce qui sort de vous, parce qu'il y a quelque chose qui sort de vous et parce qu'il a déposé par son esprit l'amour à l'intérieur de nos cœurs. Et à mesure que nous sommes saturés de son amour, il jaillit comme une source d'eau vive dans ce monde brisé, désordonné, et qui a énormément besoin de valeurs, de limites, et d'amour, de compassion, de grâce, de savoir qu'ils sont aimés, eux aussi, de la part de Dieu. Et tout comme nous ne pouvons aimer le Père que parce qu'il nous a aimés le premier, eux aussi ont besoin de se sentir aimés en premier de la part du Père. Et nous pouvons les aimer de la part de Dieu lui-même, comme Jésus a aimé ceux qu'il a côtoyés de la part de Dieu le Père lui-même. Et finalement, cette rencontre du cœur, c'est ça la révélation, en fait. Quand Dieu nous parle de révélation, Jésus a révélé le Père, et c'est ça cette révélation que nous avons. C'est cette rencontre de cœur, cet amour qui transforme nos vies. Mais nous savons aussi que notre cœur est extrêmement vulnérable. Je peux parler avec assurance là-dessus. Hein, notre cœur est facilement attaqué. On voit ça Jésus lui-même, hein, après avoir baptisé, il se rend dans le désert, puis là il va jeûner, il va rester 40 jours où il jeûne, il prie et il parle très probablement au Père et il y a une relation qui est là. Et puis au bout de 40 jours, il y a un moment de faiblesse, il a faim. Hein, moi j'ai pas besoin d'attendre 40 jours pour avoir faim, mais lui il a attendu 40 jours. Et il est vulnérable parce qu'il a faim, il y a un point de vulnérabilité qui s'est créé. Et bien c'est là que Satan vient le tenter, hein, juste après avoir été quelque part rempli du Saint-Esprit, puisque c'est une fois rempli du Saint-Esprit qu'il va dans le désert. Donc vous voyez, on peut être rempli du Saint-Esprit et tenté par Satan, c'est pas incompatible. Il y a cette tentation et le défi de Satan est probablement le défi que Satan nous lance à tous, pas seulement à Jésus. Et ce que Satan essaye de faire, c'est il remet en question l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, et par trois fois, il lui dira. Et bien sûr, Jésus est totalement sûr de son identité, même s'il est dans un moment de faiblesse, même si il y a des choses qui sont là et qui pourraient lui donner envie de suivre cette tentation que Satan essaye de mettre devant lui, ben il va lui rétorquer parce qu'il est sûr de la parole, il est sûr de son identité. Va-t'en quelque part, tu n'as aucun pouvoir sur moi, je sais que je suis fils. Je sais que le Père m'aime et il va rétorquer la parole de Dieu dans chacun de ces trois tentatives de Satan de le corrompre. Et finalement, dans notre cœur, c'est exactement la même chose. Notre identité est dans notre cœur. Et c'est notre relation avec le Père, c'est notre identité de fils et de fille qui est là. Et souvent, Satan vient chercher à attaquer cette identité. Lorsque vous avez ce genre de pensée où vous avez failli Satan vient dans vos pensées, puis il vous dit mais tu as échoué, est-ce que tu es vraiment un fils, est-ce que tu es vraiment une fille? Vous n'avez jamais eu ce genre de pensée ou équivalent, hein? Regarde encore ce que tu as fait, tu as encore échoué, hein? J'aime bien le mot encore aussi. Et c'est tellement facile de croire et d'accepter ces paroles, ce mensonge que Satan essaye de mettre à l'intérieur de notre cœur. Il essaye de saper et d'attaquer notre identité, ce que nous sommes vraiment en Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, nous sommes en son sein, nous sommes aimés à chaque instant. Et notre cœur est en fait sensible, fragile à ses paroles. Et c'est pourquoi il faut garder son cœur, il faut protéger son cœur. Il faut protéger ce que Dieu y a déposé, ce que vous ressentez dans des moments exceptionnels avec lui. Hein, quand ils sont montés sur la montagne de la Transfiguration, c'était tellement fort. Ils ont voulu mettre une tente, puis on va rester là, on ne va plus bouger. Mais il fallait garder son cœur. Garder, protéger son cœur, ne pas le laisser être attaqué dans notre identité de fils et de fille de Dieu. Proverbe 4, 23 nous dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent des sources de la vie. Jaillissent! Il y a encore cet effet multiplicateur. On le voit aussi dans la vie du roi David, dans le psaume 86, verset 11. J'ai pris la New International Version. La NIV, enseigne-moi tes voies afin que je marche dans la vérité. Donne-moi un cœur sans partage afin que je craigne ton nom. Donne-moi un cœur sans partage, qu'il n'y ait pas de mélange à l'intérieur de mon cœur, qu'il n'y ait pas de questionnement, de mise en cause de mon identité, de ce que je suis. Dieu ne veut pas que je sois avec un cœur qui est tiraillé d'un côté et de l'autre. Il veut simplement que je me concentre sur qui est mon Dieu, sur qui est mon Père. J'espère que c'est votre prière aussi. Père, donne-moi un cœur sans partage. Quand on lit le psaume 51, un psaume de repentance de la part de David, hein, par excellence, on sait que David a péché avec Bathsheba, qu'il a commis l'adultère, qu'il a fait commettre un meurtre. Il a été donc meurtrier par délégation. Et il dit, crée en moi un cœur pur. Voilà le psaume qu'il est en train d'amener devant Dieu. Il devait certainement se sentir un peu coupable quelque part à l'intérieur de son cœur. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu continue de nous aimer, mais le péché nous sépare de Dieu. C'est la sensation que nous avons à l'intérieur de nos cœurs, c'est une sensation de séparation, même si Dieu est toujours présent. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce qu'il sait que c'est la seule solution pour avoir de nouveau un contact, une relation avec lui. Non pas que la relation du côté de Dieu soit brisée, mais c'est nous qui ne la ressentons plus. Ne me rejette pas loin de ta présence. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Le cœur de David était un cœur tourné vers Dieu, tourné vers le Seigneur. Il savait à quel point le cœur est sensible et fragile et à quel point il peut être déchiré à l'intérieur de nos vies. Et il dit donc, donne-moi un cœur sans partage. Crée en moi un cœur pur. Et garde son cœur. David a appris à garder son cœur, à marcher après avec un cœur qui était droit. Et quand on pense à la vie de David, hein, il a connu le rejet. Il a connu le rejet lorsque, de la part d'Isaïe, on ne sait pas si c'est son père adoptif ou réellement biologique. Mais toujours est-il que Isaïe l'a laissé au champ lorsque Samuel est venu et il a fallu que Samuel insiste en disant, mais t'as pas encore un fils? Bon, il y a bien Isaïe là, il y a bien David, pardon, là dans le champ. Je l'ai pas fait venir, mais bon, bah, fais-le venir finalement, fais-le venir. Et puis c'est lui qui a été choisi. Donc il a été rejeté de la part de son père. De ce père adoptif ou biologique, on ne sait pas. Il a eu le rejet de Saül tout au long de sa vie, quasiment. Il y a eu le rejet de ses frères lors du combat avec Goliath. Non mais, attends, qui tu es, toi? Vas-y, retourne avec tes moutons. Vas-y, retourne avec tes moutons. Il a connu le rejet. Il a connu la sensation à l'intérieur de son cœur, ce que ça faisait à l'intérieur de son cœur. Mais pourtant, il savait qui il était. Acte 13, 22 nous le décrit comme un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas parce que on a connu le rejet, c'est pas parce qu'on a connu les difficultés, le péché, et qu'on est revenu vers Dieu, qu'on a appris à se reconnecter à Dieu. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, garde mon cœur plus que toute autre chose. Que vraiment, on n'a pas un cœur selon le cœur de Dieu. David savait qu'il était important de protéger son cœur. Et ce que nous voulons finalement, c'est d'avoir un cœur ouvert à la présence de Dieu, ne pas avoir un cœur fermé, hermétique à sa présence. Parce qu'un cœur fermé, il ne peut pas recevoir l'amour, peut pas recevoir cet amour dont nous avons besoin, mais un cœur ouvert peut le recevoir. Et c'est pour ça qu'on passe souvent du temps dans les messages à parler des différents blocages qu'il peut y avoir à ouvrir son cœur et à recevoir l'amour de Dieu en tant que Père. Et le premier blocage auquel je pense, qui me vient à l'esprit, c'est évidemment le manque de pardon. On pourrait prêcher sur le pardon une fois par mois ou une fois par semaine, j'en sais rien, mais il y aurait toujours quelque chose à dire et toujours quelque chose à faire. Mais parce que lorsqu'on parle du ressentiment dans notre cœur, il est lié souvent au manque de pardon, au lâcher prise, à laisser l'autre partir, parce que le pardon va être une puissance qui libère notre cœur avec sa capacité à recevoir et à donner. Mais lorsqu'on porte du ressentiment à l'intérieur de notre cœur, on porte de l'amertume, notre cœur est fermé. Et ça, c'est une loi qui est spirituelle. De la même manière que si je prends un objet et que je le lâche, il tombe, lié à la rotation de la Terre, à la force centripète, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est une loi qui est physique, qui est reconnue, hein, c'est Galilée qui voit la pomme tomber. C'est une loi qui est physique, reconnue, il y a des lois qui sont émotionnels. Un enfant qui est séparé de ses parents et de l'amour de ses parents, ben, ça va créer des blessures à l'intérieur de son âme, dont il va mettre toute sa vie à essayer de s'en sortir. Et il y a des lois spirituelles, si vous jouez avec des esprits, ben, il y a des chances que vous vous connectiez à eux, que vous soyez besoin de libération. Ce sont des lois spirituelles. Eh ben, c'est une réalité. Si on ne pardonne pas, ça ferme notre cœur, il y a de l'amertume et des conséquences à l'intérieur de notre âme. On connaît tous l'histoire racontée par Jésus dans Matthieu 18, celle du roi avec ses différents serviteurs. Il y a un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent et une somme phénoménale, impossible à rembourser. Et ce que Jésus dit, pardon, que le roi fait, est juste extraordinaire. Et c'est une clé pour nous, pour parvenir à un véritable pardon du cœur. Jésus a dit que le roi a essentiellement fait trois choses. Hein, et si nous faisons nous aussi ces trois choses, eh ben nous pouvons parvenir à un véritable pardon du cœur qui nous libère. Et la première de ces choses, c'est calculer le coût, calculer l'impact que ça a à l'intérieur de nos vies, voir l'impact que ça a à l'intérieur de nos vies. Le roi devait savoir, et il a fait ses comptes, il devait savoir ce qui lui a été volé et qu'il ne récupérerait jamais. On ne peut pas libérer une dette si on ne sait pas de combien elle est. Il lui était impossible de savoir. Sans évaluer le coût, sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Et la deuxième chose, qui est la plus difficile, j'y reviendrai dans un instant, mais je vais continuer avec la troisième d'abord, c'est le lâcher prise. Une fois qu'on aura fait la deuxième, il faudra lâcher la chose, terminer. Mais la deuxième, ce qui est la chose la plus difficile, c'est le roi devait avoir de la compassion pour son serviteur. Il devait avoir de la pitié pour son serviteur. Reconnaissant que celui-ci, de toute façon, ne pourrait jamais rembourser la dette. Jamais. C'est impossible pour lui. Sa situation ne lui permettait pas. Son histoire, son passé ne lui permettait pas. Ce qu'il avait fait ne lui permettait pas. On ne pouvait pas revenir en arrière. Et la compassion qu'il avait pour ce serviteur et pour sa famille, quelque part, c'est qu'il ne voulait pas le voir emprisonné et gâcher sa vie. Et donc, il ne voulait pas qu'il soit lié, il voulait qu'il soit libre. Il a donc eu compassion de son voleur. Et c'est ça qui lui a permis d'effacer la dette. Et nous savons que ce serviteur, une fois sorti, a trouvé un autre de ses compagnons qui lui devait une somme ridicule, une toute petite somme. Et ce premier serviteur n'a pas voulu lui pardonner hein, à ce compagnon. Et il connaissait la dette. Il avait donc fait la première étape. Mais il n'a pas franchi la deuxième étape, il n'a pas eu compassion de son compagnon et il a échoué à la deuxième étape. Comme s'il le prenait par le cou quelque part, rends-moi ce que tu me dois, et puis il l'a fait mettre en prison. Et l'histoire nous dit que d'autres personnes qui avaient accès au roi, qui avaient vu ça, l'ont rapporté au roi et ils ont été témoins de la situation. Et le roi, il a dit, mais attends, mais je t'ai pardonné, mais tu n'as pas été capable de lui pardonner. Et finalement, il a été lui-même jeté en prison. C'est ce qui a... Et la conclusion de l'histoire que raconte Jésus, c'est terrible. C'est ce qui arrive quand on ne pardonne pas de tout son cœur. C'est ce qui arrive quand on ne pardonne pas de tout son cœur. Finalement, le manque de pardon, ça a un impact direct sur nous-mêmes, certes, parce que tu es parti en prison, mais... Le tout début de l'histoire, ce pourquoi le roi lui pardonne, c'est parce que quelque part, il ne veut pas que sa famille non plus soit touchée, parce que c'est lui et sa famille qui auraient été impactés en prison, qui auraient été jetés en prison. Et finalement, le manque de pardon qu'on va avoir un impact sur toute la famille. Ce que moi, je vais penser qu'il me regarde moi tout seul avec Dieu, moi tout seul avec la personne que je n'ai pas pardonné, ça a un impact sur toute ma famille, tous mes proches, tous ceux qui sont en relation avec mon cœur. Parce que si je ferme mon cœur, si mon cœur est affecté, ça a un impact sur tous ceux qui sont en relation à l'intérieur de mon cœur. C'est spirituel, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui va se projeter sur eux. Et on le voit quand on prie pour la délivrance, et certainement Carole a déjà vécu ce genre de choses à elle, mais on le voit. Quand il y a Pardon qui n'est pas donné, c'est pas seulement la personne, c'est pas les deux personnes ou trois, j'en sais rien, qui sont concernées. C'est l'impact, il est sur tout le monde, sur tous ceux qui sont importants à l'intérieur de notre cœur. Et finalement, si nous ne pouvons pas pardonner de tout notre cœur, c'est comme si nous nous gardions nous-mêmes en prison. Et nous jetons même les autres qui sont à l'intérieur de notre cœur, sans qu'ils le sachent, en prison. Et c'est ça les liens spirituels que l'on peut créer quelque part dans les familles et dans les vies. Donc il est important de pardonner, il est important de réaliser ce processus à l'intérieur de nos vies. Premièrement, calculer le coût, qu'est-ce que ça a eu comme impact à l'intérieur de ma vie? Et deuxième chose, pardonner, mais parce que, pas pardonner juste avec l'intelligence, c'est avoir compassion, savoir que de toute façon, il ne pourra jamais rembourser. Et avec compassion, avoir pitié, et compassion et amour finalement pour cette personne, faire grâce. Et la troisième, c'est effectivement de lâcher prise, pas revenir dessus. Parce que si on revient dessus, on doit recommencer le processus. Quelque part, on veut que les gens reçoivent eux aussi l'amour du Père. Et ça va nous libérer. Ça va nous libérer, ça va libérer ceux qui sont à l'intérieur de notre cœur. Et ça va avoir un impact direct sur notre entourage. La Bible est très claire, sans forcément qu'ils le sachent. La famille de ce serviteur ne savait pas forcément l'impact que ça pouvait avoir sur eux, ces situations, ces différentes situations. Le pardon, c'est une source importante de déblocage. Alors, je ne sais pas où tu en es, peut-être que Dieu t'a parlé par rapport à ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut le réaliser. Peut-être tu avais déjà pardonné, mais il y a eu un autre événement, tout ça, etc. Puis tu es revenu en arrière sur ton pardon. Et il y a de nouveau un coût à évaluer, parce que tu t'es pas rendu compte que le coût que tu avais calculé, ben, c'était plus que ça en fait. Et donc il y a encore une autre partie, une autre dimension que tu dois pardonner. Pour pouvoir réaliser un pardon du cœur, hein, la Bible nous dit 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois, mais c'est monstrueux, c'est inimaginable, c'est impensable. Et c'est si on reste dans le monde matériel et physique, c'est déjà un chiffre qui est extrêmement élevé. C'est pour ça qu'il faut changer de dimension, il faut aller dans le cœur, il faut aller dans le pardon du cœur, il ne faut plus aller dans le pardon calculé. Et lorsqu'on pardonne, eh ben, on peut davantage ouvrir notre cœur pour recevoir l'amour, parce que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Le deuxième blocage qui est souvent donné pour recevoir cet amour du Père, ben, c'est la perte du cœur de fils et de filles. Hein, on veut être indépendant, on veut être mature, on veut être comme Satan, on ne veut plus être dépendant de quelqu'un. On ne veut plus être dépendant d'un supérieur, de quelque chose qui nous dirige, qui dirige nos vies. Mais Jésus a vécu sa vie comme un fils, fils de Marie et Joseph. On le voit très clairement dans les récits évangéliques, hein. Il n'a pas hésité à le vivre ainsi. Bien sûr, fils de son Père céleste, hein, son désir était de plaire au Père. Je ne fais que ce que le Père me dit de faire, je ne dis que ce que le Père me dit de dire. Son plaisir, c'est de faire plaisir au Père. C'est là le cœur d'un fils. C'est son désir de plaire. Il vient pas d'une pure obéissance, ni d'un devoir religieux, mais il veut plaire. Il est dans le souhait de plaire au Père et de se délecter du plaisir du Père à l'intérieur de sa vie. Et l'amour libère toujours ce désir. Si un enfant vous fait, pour ceux qui ont des enfants, vous fait la vaisselle et qu'il le fait par amour pour vous, pour que vous puissiez vous réjouir de ça, il n'y a pas plus beau cadeau quelque part à l'intérieur de vos cœurs. Et c'est le désir de l'enfant, c'est le désir du fils et de la fille. L'amour peut ressembler à de l'obéissance. Mais ce n'est pas de l'obéissance qui va permettre de faire de la différence entre l'amour et l'obéissance du serviteur, c'est justement la motivation du cœur qui se cache derrière. Si nous ne le faisons pas avec ce cœur de fils et de fille, une partie de notre cœur est fermée. On peut avoir le même effet, on peut avoir la même réalité physique sans avoir l'amour qui est derrière. Et si on le fait avec un cœur fermé, ben on aura du mal à recevoir l'amour du Père, tout simplement. On est comme le fils aîné de la parabole. On a fait toutes les choses, on a fait de l'obéissance, mais on n'a pas su recevoir dans l'amour tout ce qui est notre héritage. Hein? Pour retrouver ce cœur de fils, ce cœur de fille, eh ben, il faut très souvent régler le problème que nous pouvons avoir en termes de relations avec nos parents terrestres, régler les choses qui les concernent. J'ai souvent vu ça, j'ai vu ça pour ma propre vie, mais j'ai vu ça pour les autres aussi. C'est comme si vous deviez vous retrouver au moment où vous avez perdu le cœur de fils. À l'endroit même où vous l'avez perdu, de façon à le retrouver à l'endroit où vous l'avez perdu. Hein, un jour, j'ai perdu ma Bible annotée. Bon, j'ai eu je ne sais combien de Bibles annotées, mais à chaque fois que quand on commence à accumuler énormément de notes à l'intérieur de sa Bible, elle devient un peu plus précieuse que les autres Bibles qui ne le sont pas, parce qu'il y a déjà tout un tas de choses à l'intérieur. Et j'avais perdu ma Bible annotée. J'ai fait 1 heure de route pour revenir en arrière et espérer la retrouver, mais je ne l'ai pas retrouvée. J'espère qu'elle a été au bénéfice de quelqu'un. Mais j'étais tout triste de l'avoir perdue, même si j'espérais qu'elle soit au bénéfice de quelqu'un. Eh bien, c'est un peu pareil. On doit revenir à l'endroit où on a perdu ce cœur de fils pour de nouveau. Reprendre, pardonner peut-être ce qui a besoin d'être pardonné vis-à-vis de nos parents le dire, l'exprimer, l'écrire si nos parents ne sont plus là et trouver sa place dans la relation que nous pouvons avoir avec le Père, retrouver ce que nous avons perdu à ce moment-là. Et ça ouvre la voie à être des fils et des filles du Père Céleste, ça ouvre notre cœur à recevoir l'amour. J'ai fait cette expérience parce que quand j'ai retrouvé mon père, j'avais décidé d'être de le rencontrer avec un cœur de fils. Je l'ai pris dans les bras, j'ai dit bonjour papa, j'ai pas serré la main. C'était extrêmement fort, extrêmement dimensionnant dans la relation que l'on a décidé d'avoir. Mais j'ai vécu ça il y a pas très longtemps dans le remariage, il y a moins d'un mois maintenant. Lorsque Jean a fait un témoignage sur comment il a reconnu son père, il a reconnu son père comme étant son père, il a abandonné toutes les charges qu'il avait contre moi, justifiées ou pas justifiées, peu importe. Il avait perdu ce cœur de fils à cet endroit-là et il l'avait depuis longtemps retrouvé déjà dans sa vie intérieure. Mais il l'a démontré publiquement, et c'était un moment extrêmement émouvant du remariage. Et c'était fort, extrêmement fort pour ceux qui l'ont vécu. Je pense que vous vous rappelez de ce moment. Et très souvent, c'est un blocage qui est présent à l'intérieur des vies. Et on doit faire cette démarche pour retrouver un cœur de fils et de fille. On ne peut pas être paterné par Dieu. Si et même materné, si quelque part notre cœur n'est pas prêt à retrouver cette position. Le troisième blocage, ben, c'est une vie sans réconfort, sans compassion, sans quelque chose qui est de l'amour à l'intérieur de nos vies. On a vécu en tant qu'orphelin tout le temps et il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a jamais eu cet amour qui est venu nous aider à passer et à recevoir et apprendre à recevoir de l'amour. C'est un des blocages très fréquents qu'on peut rencontrer dans une vie sans réconfort, une vie sans affection, une vie qui n'a pas connu des parents qui disent je t'aime, qui n'a pas connu aucune autorité qui lui dit je t'aime, qui vient rassurer, qui vient aider dans la vie, qui vient diriger les pas. Et donc, c'est une vie d'orphelin qui vient, pour exister, écraser les autres et se battre, etc. Et on a rien sans rien. Et voilà. Et cette situation fait que, ben non, Dieu, oui, d'accord, mais il ne peut pas m'aider. Si je veux qu'il m'aide, il faut que je mérite. Donc, il faut que je fasse, il faut que je sois dans l'obéissance. La grâce n'existe plus. le pardon n'existe plus, la compassion n'existe plus, et le cœur est totalement fermé, la seule intelligence fonctionne. Il faut de nouveau laisser la place au cœur qui s'ouvre. Et c'est pour ça que Salomon dit dans les Proverbes, mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose, le reste n'est pas important, mais garde ton cœur, ne le laisse pas se fermer avec des pensées orphelines. Notre vie découle de notre cœur, et c'est très vrai. Notre cœur est la source de vie. C'est ça qui est réellement important. C'est pourquoi Salomon nous dit, mais garde-le ton cœur, protège-le, prends acte. C'est le centre de ton système de vie. Et je peux que vous encourager à ne pas avoir un cœur qui est fermé, à ne pas mériter les choses, mais à accepter la grâce, le réconfort, l'amour, la compassion que Dieu a pour vous. Et une fois que vous ouvrez votre cœur, bien le garder, d'accord? Parce que garder et fermer, c'est pas la même chose, hein. Avoir un cœur gardé et avoir un cœur fermé, c'est pas la même chose. Quelle est la différence? Ben c'est extrêmement simple. Un cœur fermé, ben, la porte est fermée, hein, on garde tout ce qui est mauvais à l'intérieur et on empêche l'amour d'entrer, tout ce qui est bon de l'extérieur de rentrer. C'est ça un cœur fermé. Mais un cœur gardé, c'est un cœur qui sait faire le tri. Il rejette ce qui n'est pas bon, mais il laisse rentrer l'amour. Il est gardé. Il garde l'amour à l'intérieur de lui. C'est ça la différence entre les deux. Et j'espère que nous pourrons tous commencer à vivre à partir de ce lieu où finalement on a un cœur qui est ouvert, un cœur qui est constamment rempli, saturé de sa présence, de l'amour du Père, et que nous puissions marcher en communion dans l'amour du Père, hein, être un avec lui. Jérémie 29, 11 à 13 nous dit: Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. On a besoin de ça. Alors vous m'invoquerez, vous viendrez me prier et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, la condition clé de ce verset, c'est chercher de tout votre cœur. C'est dans le cœur que se vit cette relation. Et je peux que vous encourager à avoir ce cœur ouvert, constamment saturé de l'amour du Père. Si on lit l'histoire de Job, hein, Job, c'est vraiment une histoire de deuil, de perte, de terrible cette histoire. Mais c'est aussi une histoire de rencontre dans le dernier chapitre, après que Job ait été dépouillé de tout, tout lui est enlevé, mais il vit cette rencontre avec Dieu, une rencontre extraordinaire avec le Seigneur, et au point où il va dire, va considérer tout ça à l'arrière, là, tout son passé, puis il va dire, mais mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais là maintenant, mon cœur t'a vu. Mes yeux t'ont vu. Et c'est ce que va provoquer une rencontre avec Dieu. On en sait beaucoup sur lui, on a beaucoup de connaissances, on a des fois trop de connaissances peut-être, mais lorsque les yeux de notre cœur le voient, et le voient vraiment, nous savons que nous avons eu une rencontre puissante avec lui. Et pour Job, ça a tout changé. Ça a tout changé. Il n'était plus le même après. Et pour nous, ça peut tout changer aussi. Parce que Dieu a toujours été Père. Alors, on a examiné notre cœur, on a examiné brièvement certains blocages de notre cœur, et on peut peut-être s'identifier à cela, et peut-être c'est un travail à faire dans les jours qui suivent. Et il veut être en relation, on a compris qu'il veut être en relation avec nous en tant que Père. Il veut être Père pour nous, que nous sachions que nous sommes ses fils et ses filles. Hein, c'est Jérémie 3,19 qui nous dit: C'est avec joie que je vous traiterai comme mes enfants. C'est dans la New Living Translation qui nous dit: C'est avec joie que je vous traiterai comme mes enfants, que je vous donnerai un pays agréable, le plus bel héritage de toutes les nations. Et ça nous parle d'identité, ça nous parle de ce que nous sommes, d'appartenance, d'héritage. Et c'est le désir du Père, c'est ce qui fait sa joie, c'est ce qui participe à son plaisir. Je pensais que vous m'appelleriez Père. C'est ça qui est son plaisir. Et que vous ne vous détourneriez pas de moi, que vous vous écarteriez pas. Parce que c'est comme si on s'était détourné de lui. si on ne vivait pas finalement notre véritable identité, avec ce sentiment d'appartenance, si on ne vivait pas l'héritage qu'il a prévu pour nous, c'est comme si on se détournait de lui. Il veut nous combler de ces choses. Il veut nous combler de cette identité, de cette appartenance à un groupe, on en a besoin, cet héritage, parce qu'il est le Père éternel. Son désir est que nous l'appelions Père, parce que c'est ce qu'il est, tout simplement. C'est ce qu'il est. Ésaïe chapitre 43, dans les 7 premiers versets, il y a réellement un appel passionné du Père. Je vous invite à le lire chez vous dans les jours qui suivent, mais rappelez-vous, Dieu appelle ses enfants, ses fils, ses filles, des extrémités de la terre. Il leur dit, revenez à la maison, revenez. Et on voit dans ces 7 premiers versets cette passion qu'il a dans le cœur du Père pour qu'il revienne à la maison, pour qu'il rentre. Et qu'ils connaissent le Père éternel. Il nous dit dans 2 Corinthiens 6, 18, je serai un Père pour vous, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce sont des mots, mais ils sont soutenus par toute l'autorité du ciel, tout ce qui est fort en lui, parce qu'il est le Seigneur Tout-Puissant lui-même qui le dit. Je serai un Père pour toi. Et cette phrase a littéralement changé ma vie. Cette phrase a littéralement changé ma vie. Et il y a deux mots qui comptent plus que tous les autres dans cette phrase, qui font que ces choses-là ont changé ma vie. Et ces deux mots s'adressent à toi aussi. Et en fait, beaucoup de gens savent que Dieu est Père. Énormément de gens savent que Dieu est Père. Et ça ne change pas pour autant grand-chose à leur vie. Parce qu'ils n'en ont pas fait l'expérience pour eux-mêmes. Et j'ai lu ce verset de 2 Corinthiens des dizaines de fois, peut-être même des centaines. Et un jour, il y a longtemps maintenant, mais un jour, j'ai lu ce verset avec une nouvelle révélation. Il disait ce qu'il a toujours dit, je serai un père pour toi. Mais la révélation qu'il a donnée, ce sont ces deux petits mots particuliers qui comptent vraiment. Je serai un père pour toi. Pour toi. Deux mots. Je serai un père pour toi, pas seulement pour tout le monde, pour toi, je serai un père. Et c'est comme s'il me disait, Frédéric, tu n'as peut-être pas connu ton père, tu as peut-être eu des pères de substitution, des personnes d'autorité à l'intérieur de ta vie, mais je serai un père pour toi. Pour toi. Et il le dit à chacun de vous. Peut-être qu'il n'y a pas eu de. Ou il y a eu des figures paternelles qui ont été fausses, erronées, chancelantes, jamais parfaites, ça c'est sûr. Mais il dit, je serai un père pour toi. Et la conséquence immédiate de ça, c'est que je serai un fils. Ou tu seras une fille. Et ça change tout. Et Jésus est venu pour révéler le Père. Il veut que nous comprenions cette révélation. C'est ce que nous dit Jésus. Hé, les gars, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Vous n'avez pas à vous inquiéter de le trouver par vous-même. Je suis là pour vous révéler le Père. C'est ça que nous dit Jésus. Matthieu 11, Jean 17, comme je l'ai déjà mentionné, je vous ai révélé le Père. C'est ça que nous dit Jésus. Dans le tout dernier verset de Jean 17, 26, ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées avant la croix. Il nous dit, j'ai révélé le Père, donc passé, mais il dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit, je continuerai à vous révéler le Père. Je continuerai de le faire. Et il le fait encore pour nous. Où que nous soyons à l'intérieur de notre cheminement, nous avons un frère aîné qui ne cesse de nous révéler le Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. Hein, il est le chemin vers le Père. Et nul ne vient au Père que par lui. Alors si on a des doutes sur qui est vraiment Dieu, on peut dire simplement à Jésus, c'est pas un problème de le prier. Jésus, révèle-moi le Père, montre-moi le Père, ça me suffira. C'est exactement ce que Philippe a dit. C'est exactement la prière de Philippe qui a prononcé ces mots. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Juste avant la croix. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Il avait compris. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il en avait déjà la révélation. savaient pas que Jésus était la révélation du Père. Et je vous garantis que ça change la vie. Tout comme ça a changé ma vie, ça a changé la vie de Barry Adams, ça a changé la vie de James Jordan, ça a changé la vie de Jack Winter, ça a changé la vie de dizaines de personnes, de centaines, de milliers de personnes. J'espère des centaines de milliers et peut-être même des millions, j'en sais rien. C'est une vérité éternelle, Dieu est notre Père. Et il veut être un Père pour nous. Alors éliminons les obstacles, éliminons les blocages. Ces blocages sont dus souvent à notre cœur d'orphelin, qui n'est pas rassuré, consolé, aimé, qui a des craintes. Et la peur n'est pas dans l'amour, hein. Il ne peut pas y avoir d'amour s'il y a de la peur et des craintes. Mais l'amour, par contre, surpasse toutes les craintes et toutes les peurs. Hein, elle chasse toutes ces choses-là, parce que si on est rassuré, si on est aimé, on est rassuré. Et la peur et les craintes s'en vont. Et ça, c'est aussi une loi spirituelle. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est ce que Jean nous dit dans 14-18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Ce qui est de l'orphelin en toi, t'inquiète pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Et Jésus n'a dit ces paroles que ce qu'il a entendu de la bouche du Père, hein, je vous rappelle. Et je crois que ces paroles sont dans le cœur du Père. C'est exactement comme quand il a dû chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Je crois que quand il les a vus partir, quand il a dû les mettre dehors du jardin d'Éden, en les regardant s'éloigner dans leur solitude, dans leur indépendance, dans leur calcul maintenant de l'intelligence, du bien et du mal, gouvernés par la pression du bien et du mal. Il y a ce cri qui court au travers des âges et qui s'exprime dans Jean au chapitre 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est le cri du Père qu'on entend au travers de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin. J'ai lu un post ce matin de une cousine de notre famille ou une nièce, je ne sais pas, j'en sais rien du tout, et qui a écrit. Côté de Michel Hadjiman, et qui a écrit on a pas connu la souffrance tant qu'on n'a pas vu la souffrance de nos enfants quand on ne peut rien faire. Et elle dit, je pensais avoir connu la souffrance, mais en fait, je ne l'ai pas connue. Et je crois que le Père, quand il a vu partir, quand il nous a vus partir, il y avait cette souffrance qui était là. Terrible de voir partir Adam et Ève en connaissant les conséquences du choix qu'ils avaient fait. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et toute l'histoire biblique, c'est ça. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous en tant que père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et il est venu, hein, au travers de Jésus. Et je crois que ces paroles résonnent à travers toute l'éternité. Et elle résonne dans notre cœur. Je ne vous laisserai pas, voilà. Je suis venu vers vous. Je suis venu et je serai un père pour vous, pour toi. Et lorsqu'on lit l'épître aux Galates ou aux Romains, on voit que le Saint-Esprit nous est donné pour de nombreuses raisons, hein. L'une de ses principales raisons, je crois, est que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions crier Abba, Père. Abba, qui signifie papa, papa. C'est le Saint-Esprit en nous, c'est cet amour en nous. Parce que l'amour qui nous est manifesté conditionne notre réponse quelque part. Elle se transforme notre réponse. Elle nous permet de crier papa. Elle nous permet de rentrer en relation avec le Père. Vous savez, on a tous entendu parler de l'esprit qui nous vient comme une boîte à outils concernant différents dons, tout ça, ministères, etc. Mais je crois que la relation, la chose la plus importante pour laquelle l'esprit nous a été donné, c'est justement de pouvoir distribuer cet amour paternel dans nos vies qui nous permet de répondre à Dieu avec le terme Abba, papa, papa, parce que nous avons été aimés de la part du Père avec cet esprit-là. Ézéchiel 37 nous dit, Dieu nous donnera un cœur nouveau et un esprit nouveau. Hein? Je mettrai mon esprit en vous qui vous poussera et vous motivera à marcher dans mes voies. En fait, On se force plus à marcher dans les voies de Dieu, mais tout simplement, on est amené à répondre naturellement dans nos vies par l'Esprit et à marcher dans les voies du Père. C'est ça que ça fait. Nous avons tous essayé, nous avons tous échoué. J'en suis persuadé. Parce que nous avons essayé par nos propres forces. Mais on peut y arriver un jour ou deux, voire un mois pour les meilleures des années, mais on lutte et on s'épuise. Mais lorsque nous sommes poussés par l'esprit à avancer, rien à voir. On n'est plus dans l'obéissance, on est dans une relation. Parce que nous suivons les traces de notre Père par amour. On n'est plus dans cette obéissance forcée. Mais est-ce que l'obéissance autorise la discipline? Oui, la discipline est nécessaire. Quand les disciples ont rencontré Jésus, il y avait tout un tas de choses dont ils devaient se dépouiller. Et ils ont été appelés les disciples parce qu'ils ont suivi Jésus. Ils se sont dépouillés de leur nature charnelle pour revêtir leur nouvelle nature. Donc la discipline existe pour non plus être dans l'obéissance de la foi, mais dans une relation avec le Père. Marcher dans les traces d'amour de notre Père par amour, tout simplement. Et je crois que c'est ça que révèle le Saint-Esprit, notre véritable identité en tant que fils et filles, pour que nous puissions finalement marcher comme Jésus a marché. Alors, nous faut compter sur le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous faire avancer. Jean 14 nous dit, je vais vers mon Père, mais il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, un autre conseiller qui sera avec vous pour toujours, et il vous le rappellera toutes ces choses. Et si nous continuons à être remplis du Saint-Esprit, à boire ce verre, ce verre d'eau quotidien, qui devient comme une source d'eau vive jaillissant à l'intérieur de nos vies, on a besoin de ce baptême d'eau vive, hein, cette immersion constante dans le Saint-Esprit. Alors marchons aussi par l'Esprit. Marchons comme Jésus a marché, mais marchons par l'Esprit, inondés de cette eau vive à l'intérieur de nos vies. Jean 2, 6, marchez comme Jésus a marché, vivez comme Jésus a vécu. Et c'est ça qui va nous donner une pleine liberté, hein, la liberté glorieuse des enfants de Dieu, c'est ça auquel on est invité. La création tout entière attend avec impatience, impatience, la révélation des fils de Dieu. Je pense que quand on regarde le monde aujourd'hui, moi aussi, j'attends avec impatience la révélation des fils de Dieu. Et ce n'est pas l'extérieur qu'il faut changer. Ce n'est pas mettre le chauffage à l'extérieur. C'est changer l'intérieur, mettre le chauffage à l'intérieur de nos vies. Il n'y a que en changeant l'intérieur que l'extérieur sera changé. On ne peut pas changer ce que cherchent les nations aujourd'hui ou ce que cherchent les gouvernants, les dictateurs aujourd'hui. Qu'il faut changer, c'est l'esprit qui est à l'intérieur de ces dictateurs, leur pensée intime, profonde, parce que c'est ce qui va sortir d'eux après. La façon dont le Père nous voit, c'est d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Christ est ma vie. Je suis avec lui, je suis en lui. Quand dit-il, Père, je veux qu'il soit avec moi là où je suis. Il y a une notion, toujours cette notion d'unité. Unité avec lui. Il est dans le sein du Père. Et nous sommes assis avec lui dans le sein du Père. C'est là qu'est véritablement notre foyer. Jean 14, 23, je vais vers mon Père. Et nous viendrons faire notre demeure chez vous, chez toi, mon frère, chez toi, ma sœur, on vient faire notre demeure. C'est une demeure qu'il crée, c'est une demeure dans laquelle il veut vivre. Nous faisons notre demeure chez vous. Notre héritage en tant que fils et filles, c'est d'être libre. Libre. Alors, il ne nous a pas promis les choses faciles. Nous continuerons à vivre dans un monde qui est brisé, chaotique, tortueux, par-dessus tout, orphelin. Jean 16 nous dit, dans ce monde, vous aurez des difficultés, vous aurez des tribulations. C'est pas une déclaration qui est très encourageante, mais elle est très vraie. Vous aurez des tribulations, mais ne craignez rien, parce que j'ai vaincu le monde. Comment est-ce que Jésus a vaincu le monde? Il a changé le monde autour de lui, l'extérieur du monde autour de lui? Non. Il a vaincu le monde à l'intérieur de son cœur. Ce que produisait le monde dans son cœur, en termes de rejet, d'amertume, de dureté, etc., il l'a vaincu par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Il a changé l'intérieur. Ce cheminement repose sur lui, vainqueur à l'intérieur de lui-même, quelque part, nous-mêmes, vainqueurs au travers de lui. L'Esprit de Dieu en nous. Son amour. Ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, pardonner aux autres, comme lui-même nous a pardonné, lui l'a fait à l'intérieur de nos vies. Et pour ça, il faut redevenir comme un petit enfant. Il faut redevenir comme un enfant. Vous savez, se laisser porter par lui, être dépendant de lui. On ne peut entrer dans le royaume des cieux que si on redevient comme eux. C'est ce que Jésus a dit plusieurs fois dans les évangiles. C'est ce cœur que le Père appelle à avoir, un cœur d'enfant, une dépendance totale, une confiance totale, une confiance totale en notre Père. 2 Corinthiens nous dit, c'est la puissance de la faiblesse qui permet à la puissance de Dieu de se manifester. Hein, c'est chapitre 11, verset 3. Jésus nous dit que si nous avons cette simplicité enfantine, cela permettra à la puissance de Dieu de se manifester au travers de nous. Hein, se révéler au travers de nous. Deutéronome 1, verset 29-31 nous dit que nous sommes portés par notre Père, portés par lui. Alors je ne peux pas porter mes enfants qui sont adultes, hein. Je ne peux pas le faire moi. Au pire, s'ils avaient des enfants, je pourrais peut-être les porter, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, ils ont des chats, je peux porter le chat, je peux porter le chien aussi peut-être. Il doit peser quand même un peu son chien, mais... Bon, ça, j'y arriverai encore, mais c'est le Père qui nous porte tout au long du chemin. Il se bat pour nous, nous porte le long du chemin. Demeurez dans mon amour, nous dit Jean 15, 9. Demeurez dans mon amour. C'est une exhortation et c'est mon exhortation d'aujourd'hui. C'est ce que je vous laisserai comme verset pour nous quitter là. J'ai vécu de nombreuses années avec ce message-là à l'intérieur de mon cœur. Je l'ai affiné, je le travaille, je cherche à le vivre chaque jour davantage. J'en suis où j'en suis. Peu importe. Et peu importe où vous en êtes. Pas important, ça. J'aime énormément ce témoignage qui existe dans un livre. Je ne me souviens plus l'auteur. Je suis désolé, le nom m'échappe. Mais Le gars est enlevé quelque part auprès de Dieu. Il a cette vision auprès de Dieu. Et puis, il regarde ceux qui entourent le trône. Et puis, alors, je sais pas comment sera le trône. Et lui, sans doute pas non plus. Mais pour les besoins de Dieu, lui montre comme ça. Et puis, il s'attendait à voir tous les grands pasteurs et tous les grands de ce monde en termes de foi qui ont été adulés peut-être au siècle dernier devant le trône et puis il s'aperçoit qu'ils n'y sont pas. Et par contre, il reconnaît un clochard qui est là, un gars qu'il a croisé plusieurs fois sur le bord du chemin, qui est un clochard dans la vie, dans la vie terrestre. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et Dieu m'attendait à trouver tous ces grands noms hein, de la foi. Et puis, voilà. Et finalement, Dieu lui explique, ouais, mais lui, il s'est converti au travers d'un petit flyer qui était tombé par terre, il l'avait trouvé, et puis il s'est converti au travers de ce flyer. Et il m'a accepté dans son cœur au travers de ce petit flyer. Un jour, il a vu un chat et il avait l'habitude de donner un grand coup de pied sur les chats. Et puis là, il a retenu son pied. Je lui avais donné un petit peu d'amour. Et avec le peu d'amour qu'il avait reçu, ben, il a retenu son pied. Quelque part, il a consommé tout l'amour que je lui avais donné. dans l'intérieur de son cœur, tout ce qui avait pu être déversé dans son cœur dans la situation où il était, et il a tout utilisé. Il n'en a pas laissé de côté, il a cherché à le vivre totalement. Et finalement, un jour, il y a un de ses compagnons de malheur, quelque part, hein, quand on est clochard, qui avait froid, il faisait froid ce soir-là, et puis il lui a donné son carton, il se couvrait avec un carton. Il lui a donné son carton pour le couvrir, et pendant la nuit, il est mort. Et il a donné tout ce qu'il avait. Tout l'amour qu'il avait reçu, il l'a utilisé. Et ce témoignage est juste extraordinaire. Demeurez dans mon amour. Parce que l'amour qu'on reçoit va nous pousser au sacrifice, va nous pousser à nous donner aux autres. Et première réaction peut être charnelle, diabolique, nous dit la parole, mais la deuxième réaction, celle qui vient de ton cœur, elle est remplie de son amour. Si tu t'es ouvert à lui, si tu as laissé l'Esprit de Dieu te remplir, elle est juste remplie de son amour. Alors, laissons-nous grandir, que notre vie soit transformée, que les douleurs, les blessures, les blocages qu'on peut avoir à l'intérieur de nos vies, les obstacles qui sont encore là, qu'il nous faut franchir, travailler, tout ce que vous voulez, ben, on puisse continuer à le faire. Et finalement, qu'on puisse déverser cet amour dans ce monde brisé, déchu, chaotique, blessé, et dire oui, j'ai trouvé moi aussi le véritable amour. Je l'ai trouvé. Et qu'il le voit au travers de nos yeux, qu'il le voit dans notre façon d'agir, qu'il le voit dans notre façon d'être avec les autres, qu'on ne cherche pas à profiter de l'autre, mais qu'on cherche juste à l'aimer.